pas écouté, à qui nous a fait, il est 11h03. Le prochain rendez-vous d'information, c'est tout à l'heure à midi, heure chinoise, avec Babel Pongo Massimango.
Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de convaincre au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Lors des manifestations commémoratives du deuxième anniversaire de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, les défenseurs des droits de l'homme de la RDC ont relevé qu'il existe encore des défis majeurs à relever bien sûr pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. On se rappellera qu'au mois d'août de l'année passée, l'ancien ministre des Justice et des Droits humains avait déposé et défendu au Sénat deux projets de loi dans le secteur des droits de l'homme. Le premier sur la Cour spécialisée des droits de l'homme et le deuxième portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme et des dénonciateurs d'actes de corruption et détournement des deniers publics en République démocratique du Congo. Que faire pour une protection effective des défenseurs des droits de l'homme en RDC? Vos points de vue et commentaires sont les bienvenus. Marie-Chantal Lumba, Tissim Poutou sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Paul Badianema. J'aurai la mesure de la présence. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Et pour les appels en direct, 081-890-6315, mais aussi, vous pouvez déposer un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, le commentaire qui pourra être exploité dans cette émission Paroles aux auditeurs. Nous avons déjà en ligne M. Rossin Manqueta, qui est le directeur exécutif adjoint de l'ONG La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme. Et je vous rappelle que notre émission de ce jour tourne autour des mécanismes à mettre en place pour assurer une effective protection des défenseurs des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme réunis, bien sûr, en fin de semaine dernière pour la commémoration du deuxième anniversaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, ont relevé beaucoup d'autres choses et puis beaucoup de demandes, mais nous avons ciblé les défis qu'il faut relever pour une protection effective des défenseurs des droits de l'homme. Vos propositions, points de vue, ils sont les bienvenus. Rossin Manqueta, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Bonjour.
Comme je venais de le dire, depuis l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, y a-t-il eu des progrès souterrains en ce qui concerne la protection des défenseurs des droits de l'homme?
Merci beaucoup pour la question. Permettez-moi de m'acquitter d'abord de l'agréable des voix que celui je remercie Radio Capi de nous avoir invité à cette émission combien importante. C'est une occasion aussi pour remercier tous les auditeurs en général et surtout ceux qui nous suivent en ce moment précis. La Voix des Sans Voix pour les droits de l'homme, comme vous le savez, a organisé dernièrement des journées de commémoration, de commémoration sur l'assassinat de Floribert Chebeya Baïdiré et de Bazana Kidadi. Et ces deux journées ont été placées sous le thème « Deux ans après votre assassinat, tous unis pour vous rendre justice ». Est-ce que nous devons dire en termes de progrès qui ont été fournis, devons voir du côté du pouvoir public, par rapport à cet assassinat, nous devons dire clairement qu'un certain nombre de mesures ont été prises lendemain de l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana Kidadi. Et parmi ces mesures, comme vous le savez, il y a eu la suspension de Gérard Diomoumbi, même si ce dernier continue à jouir de l'impunité la plus totale, mais sa suspension était là quand même une bonne chose. Et il y a eu aussi, ce que nous pouvons dire, l'acceptation, l'autorisation de médecins hollandais qui étaient venus pour faire le souci sur cet ignoble à Fernand, notamment sur les corps de Forbes-Seria. Et nous avons aussi, nous apprécions aussi en fait l'organisation du procès, un procès public qu'il y a eu, je dirais, à Makala. Et tout ce qui a été organisé par la Cour militaire de Kinshasa Gombe, ceci, je crois que c'est aussi une bonne contribution de la part du gouvernement. Donc là, ce sont des points de vue, je dirais, positifs. Il y a aussi la bonne collaboration qu'il y a eu entre, je dirais, le gouvernement, notamment les nouvelles agences des droits humains, en ce qui concerne l'élaboration du projet de loi portant protection des défenseurs des droits humains, qui a été déposé au Parlement, parce qu'aussi un effort a été fourni de la part du gouvernement en vue de garantir la protection des défenseurs des droits humains. Donc il y a, je peux dire aussi, le fonctionnement effectif de l'entité de liaison qui regroupait plusieurs parties, notamment nous, les ONGDH. Donc là, ce fonctionnement c'est aussi quelque chose d'important. Mais nous avons toujours beaucoup de défis. Beaucoup de défis qu'il convient de relever en ce qui concerne la protection des défenseurs des droits humains. Nous avons fait là un tableau par rapport aux efforts qui ont été fournis par les pouvoirs publics, mais permettez-nous de vous dire qu'il y a beaucoup de défis qu'il convient de relever en ce qui concerne la protection des défenseurs des droits humains. Vous savez que aujourd'hui, par exemple, la loi portant protection des défenseurs des droits humains est toujours bloquée au niveau du Parlement. Vous voyez, là, c'est quand même une inquiétude par rapport à la protection des défenseurs des droits humains. Cette loi est bloquée. Nous avons suivi à plusieurs honorables députés sénateurs qui se sont posé des questions. Pourquoi faudra-t-il qu'il y ait une loi portant protection des défenseurs des droits humains alors qu'il existe tout un arsenal juridique protégeant tous les citoyens et toutes les citoyennes congolaises? Et à ce niveau-là, il y en a qui ont estimé que ce n'était pas important d'avoir une loi pour protéger les défenseurs des droits humains. Mais c'est vrai, nous respectons leur point de vue, mais nous disons pas que défenseurs des droits humains, il est important qu'un cadre juridique protégeant les défenseurs des droits humains puisse être mis en place. Parce que, en fait, au-delà du fait que tous les Congolais sont égaux devant la loi, tous les Congolais doivent être protégés de la même manière par les pouvoirs publics, mais il ne faudra pas que les gens oublient que le défenseur des droits humains, de par la nature de son travail, ou la nature de son travail, la spécificité du travail qu'il fait pour défendre les sans-voix, pour défendre les opprimés, toutes ces personnes qui sont privées de voix, expose plus le défenseur des droits humains dans l'exercice de ses fonctions par rapport aux citoyens, aux autres citoyennes de la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'il est important que cette loi, la loi pour la protection des défenseurs des droits humains, puisse être votée et qu'elle soit promulguée par le président de la République. Et il y a aussi d'autres préoccupations parmi ces défis. Vous avez souligné le projet de loi sur la Cour spécialisée des droits de l'homme, ce projet, la loi aussi, ça continue à traîner au Parlement. Et il faut même ajouter aussi la Commission nationale des droits de l'homme, qui est aussi très très important, et c'est dans le cadre du principe de Paris. Donc il est important qu'on ait en République démocratique du Congo une Commission nationale des droits de l'homme. Et si vous permettez, je reviens un peu au procès.
Oui, restez Maqueta, on va pas vider tout, parce que je pense qu'on vous garde en ligne. On a compris, c'est la première partie, les défis qu'il faut relever encore pour les affaires. Il y a ces problèmes de ces deux projets de loi, que ça soit apportant la protection des défenseurs des droits de l'homme, mais aussi sur la Cour spéciale. Il y a ces problèmes de la Commission régionale des droits de l'homme. On va garder à partir de ce niveau pour que les auditeurs comprennent à quel niveau on est, quels sont les efforts qui doivent être encore fournis. On va aussi les écouter. Revenir à vous pour compléter l'intervention par rapport au procès, mais aussi en réagissant au point de vue des auditeurs qui sont sous les antennes. Nous avons Maître Henriette ici à Kinshasa et Elie qui est à Kisangani, à qui nous allons accorder la parole. On va revenir à vous.
Parole aux auditeurs.
Maître Henriette, vous êtes sous les antennes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et nous dégageons ensemble de toutes les solutions qui peuvent amener la RDC à une protection effective des défenseurs des droits de l'homme. Au-delà de cadres juridiques, comme venait de le dire Ronsin Manketa, qu'est-ce qui peut encore être fait pour la protection des défenseurs des droits de l'homme?
Concernant le droit de l'homme, j'approuve énormément leurs compétences, mais ça accentue l'impunité dans notre pays. Parce qu'on se retrouve dans des cas où nous défendons, et vous voyez des condamnés envoyés à la prison de Makala, mais les privilèges qu'ils ont, et ces privilèges sont accordés aux agents de droits de l'homme, c'est-à-dire un très bon traitement à leur égard, dont ils n'ont plus peur de quoi que ce soit. Ils savent qu'ils peuvent tuer aujourd'hui, ils seront à Makala, le droit de l'homme sera derrière, et comme il y a abolition de la peine de mort, donc cela vraiment n'est pas encourageant dans notre pays. Pour moi, sincèrement, je ne serai pas très longue, mais mon grand souhait est que la peine de mort doit continuer dans notre pays. Et cela arrangera beaucoup, car psychologiquement, tous ces criminels sauront que si vous tuez, eh ben, ça sera aussi cela que vous subirez. Mais aussi longtemps qu'on ne fera pas cela, en tout cas, on saura qu'il y aura amnistie à un moment donné, donc ils se retrouveront encore dans la rue, et ça sera toujours la même histoire. Moi, je demande aux droits de l'homme de nous appuyer à ce que la peine de mort soit réprise. Cette histoire d'abolition, pour moi, je ne l'approuve pas du tout. Je donne un cas. Lorsque le papa Kabila est arrivé et qu'il y avait des criminels comme ça et qu'ils passaient devant tout le monde et ils connaissaient la peine de mort, eh ben nous avons connu un très grand changement. Les gens circulaient librement dans le marché parce qu'ils avaient crainte à ce qu'ils soient punis sévèrement.
Si on vous écoute, Maître Henriette, votre souci à vous, c'est de pouvoir vous penser, d'abord sur la question de l'abolition de la peine de mort, on se rappellera qu'elle avait passé à eu ces débats au niveau de l'Assemblée nationale, une proposition de loi, bien sûr, par rapport à l'abolition de la peine de mort qui a été rejetée au niveau de l'Assemblée nationale, et ça veut dire qu'on retient le régime de la peine de mort, et nous avons eu un moratoire qui a existé de fait, on a condamné, mais peut-être que les gens n'ont pas été exécutés à cause du moratoire. Mais vous pensez que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de l'impunité. Mais d'un côté, par le fait que quelqu'un est arrêté, qu'il soit demain relâché, un criminel puisse être relâché demain, il va revenir encore à son forfait, et vous pensez que les défenseurs des droits de l'homme devaient appuyer plutôt le maintien de la peine de mort pour lutter contre l'impunité et surtout le récidiviste. Merci, Maître Henriette, vous ici à Kinshasa. Nous avons Élie à Kisangani en province orientale. Bonjour Élie.
Bonjour Monsieur Pierrot.
On vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait, par exemple, là où vous êtes à Kisangani, à Kinshasa, partout en RDC, pour assurer la protection de défenseurs des droits de l'homme?
Allez, merci beaucoup. Permettez-moi quand même d'exposer mes regrets ici. Parce que j'ai vu l'autre fois là un journaliste qui attaquait violemment les activistes des droits humains. Moi, je me demandais pourquoi ce monsieur s'attaque-t-il. Si l'État congolais a institué un ministère de la justice et des droits humains, c'est parce que l'État congolais est soucieux, bien évidemment, des droits humains. Mais celui-là, encore, quand il attaque comme ça, c'est pas bien. Bon, j'aimerais tout simplement dire ceci. L'État congolais doit considérer les activistes et les droits humains comme des partenaires. Parce que M. Perrault, regardez, avant que les activités des droits humains soient établies à RDC, regardez comment les gens se comportaient. Et maintenant, regardez comment les gens se comportent. Même si on est loin, mais il y a quand même un changement. Là, c'est que j'ai écouté d'ailleurs votre invité quand il disait que le Parlement a amorcé des démarches pour voter des lois en faveur des droits humains. Bon, je ne peux qu'encourager cela, qu'ils fassent un peu vite, parce que nous voulons vraiment que ces gens-là soient protégés, parce qu'ils abattent un travail combien louable, vraiment.
Voilà, mais Élie, pour vous, vous pensez qu'il faudrait au niveau du Parlement qu'on puisse accélérer l'examen, bien sûr, les lois concernant la protection des défenseurs des droits de l'homme, qu'il faut ces textes, et vous interpeller le pouvoir public en disant que l'État de Congolais doit considérer les défenseurs des droits de l'homme comme des partenaires. Nous avons Moïse qui est à Guémena, dans la province de l'Équateur. Moïse, bonjour.
Bonjour, c'est Moïse Priyé de Guémena.
Moïse, qu'est-ce qui doit être fait pour la protection des défenseurs des droits de l'homme?
Oui, avant de donner des propositions en rapport avec la protection des défenseurs des droits de l'homme, moi je pense que je suis en train d'abord de déplorer l'attitude de notre gouvernement face à l'assassinat volontaire de M. Florimel Tchéléa. Je ne sais pas où en est-on avec ce procès, et puis pourquoi l'autre-là qui était présumé, n'est-ce pas, dans cette affaire, demain, pour Dieu en liberté, et puis on ne parvient même pas à l'arrêter, ou soit à l'interpeller, je ne sais pas. Bon, pour le protéger, c'est tout juste une seule proposition. Je voudrais demander à l'État congolais qu'on puisse, n'est-ce pas, accréditer des policiers, qu'on puisse les doter chef du Conseil des droits de l'homme, avec deux ou trois policiers, comme ça, ça pourrait, n'est-ce pas, assurer la sécurité.
Voilà, il faudrait affecter des policiers, n'est-ce pas, à la protection directe, on peut dire ainsi, des défenseurs des droits de l'homme. Merci Moïse. On revient directement à vous, Rossin et Manqueta. Vous avez suivi les points de vue des auditeurs. Il y a Mme Henriette, Mme Henriette, Kinshasa, qui pense qu'il faudrait réhabiliter le principe de la peine de mort. Comme ça, ça pourra accentuer la lutte contre l'impunité. Et puis, Elie de Kisangani qui dit qu'il faudrait qu'il y ait un partenariat, que le pouvoir public considère les défenseurs des droits de l'homme comme partenaires. Et Moïse aussi, de Guémena, lui pense qu'il faudrait même affecter des policiers à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Mais quand on revient dans toutes les démarches qui sont menées entre le pouvoir public et les défenseurs des droits de l'homme, nous avons parlé de ces textes de loi, mais en dehors de ces textes de loi, parce que c'est ça, il faut attendre qu'ils soient adoptés, promulgués par le chef de l'État, comme ça on pourra les mettre en exécution. Mais pendant tout ce temps qu'on n'a pas encore atteint ces niveaux de texte des lois, qu'est-ce qui se fait sur le terrain d'une manière concrète entre le pouvoir public et les défenseurs des droits de l'homme quant à leur protection? Et vous allez revenir sur un mot que vous voulez placer autour du procès.
Merci beaucoup. Je remercie les intervenants pour la qualité de leur question. Je pense que ce qui est important à souligner ici, en attendant que le projet de loi soit adopté au Parlement et qu'il y ait un cadre juridique, je crois que le plus important, c'est le changement qu'il convient d'avoir dans le chef de certains dirigeants de notre pays. Parce qu'il y a la mauvaise perception qui est entretenue par certaines personnalités politiques et même certains membres du gouvernement en ce qui concerne le travail des défenseurs des droits humains, qui est pourtant un travail noble, comme l'a reconnu un intervenant. Mm-hmm. Ceci me pousse même à dire que le fait que cette mauvaise perception vienne de gouvernants, ceci en fait donne une matière à tous ceux qui subissent par des violations des droits humains, notamment certains éléments de la police qui sont instrumentalisés par certaines personnalités politiques. Alors, en revenant un peu aux différentes préoccupations qui ont été soulevées ici, notamment celles relatives à la peine de mort, parce que nous, en tant que défenseurs des droits humains, nous n'encourageons pas la peine de mort. N'encourageons pas la peine de mort. C'est comme ça que même au lendemain du verdict qui a été rendu, ou le même jour qu'on a rendu le verdict sur l'assassinat de Florimel Tchéléa, nous avons dit que nous étions contre la peine de mort, c'est-à-dire qu'on demanda à ce que tous ceux qui ont été condamnés à mort soient plutôt condamnés à persécuter, soient condamnés à plusieurs temps en prison. La peine de mort, en fait, nous ne l'acceptons pas en tant que défenseurs de droits humains, parce que la peine de mort elle-même contribue n'est-ce pas, au traitement cruel, inhumain ou dégradant qu'on puisse infliger à quelqu'un ou à quelqu'un. C'est comme ça que nous avons toujours été contre la peine de mort, parce que la peine de mort ne contribue pas au respect des droits humains. Par contre, la peine de mort vient en infligeant un tel traitement à quelqu'un, en fait, ça vient encore contribuer aux violations des droits de l'homme. C'est pour cela que nous sommes contre la peine de mort. Et de même pour les gens qui sont arrêtés, les criminels qui sont arrêtés ici et là, bon, il y a parfois les défenseurs des droits humains qui interviennent et puis les gens sont relâchés. Non. Je crois que nous, en tant que défenseurs des droits humains, d'abord nous luttons contre l'impunité en République démocratique du Congo. Et si des personnes commettent des crimes, il est important que ces personnes puissent répondre de leurs actes. Mais ce que nous déplorons, nous défenseurs des droits humains, c'est lorsque ces gens, quels que soient les motifs qui leur sont reprochés, sont arrêtés, ils le sont dans des conditions inhumaines. Et lorsque ces gens doivent être mis ou placés en détention, les conditions carcérales ne répondent pas au minimum des conditions de détention même des Nations Unies. Donc voilà tout ce que nous demandons. Nous, on n'encourage pas en fait que des gens commettent des crimes ici et là, mais nous intervenons lorsque les droits des personnes qui sont arrêtées ou placées en détention sont violés. C'est là que les défenseurs des droits humains ou les défenseurs des droits de l'homme interviennent. Parce que moi, il faut qu'au niveau de la population, qu'il y ait un changement vraiment de la façon de voir les choses. Donc nous, on n'encourage pas les criminels, mais plutôt toute personne, quel que soit le motif qui lui sont reprochés, est avant tout un humain, et lorsque la personne est arrêtée, lorsque la personne est placée en détention, elle a des droits, des droits qu'il convient de respecter, même dans les milieux carcéraux. C'est là que nous intervenons. Et même au niveau des arrestations, donc il faut que les personnes soient arrêtées en bonne et due forme. On ne doit pas arrêter une personne, par exemple, en la traitant de n'importe quelle manière, la brutalisant, et ainsi de suite. Donc, ce sont ces conditions-là que nous déplorons en tant que défenseur des droits humains. Par rapport à M. Willy, j'apprécie beaucoup ce qu'il a dit. Nous faisons un travail noble. C'est ce que nous voulons que toute la population comprenne que les défenseurs des droits humains font effectivement un travail noble. Les défenseurs des droits humains sont un partenaire privilégié de institutions de la République démocratique du Congo. Mais cependant, comme il l'a déploré, nous aussi déplorons cette mauvaise perception qui est entretenue par cette personnalité politique ou certains dirigeants dans notre pays.
Voilà.
Il y en a qui accusent les défenseurs des droits humains d'être des caisses de résonance, de ceci, de cela, ou d'être à la solde de puissance étrangère. Non, je crois que tous ces arguments qui sont avancés par des responsables du gouvernement, des responsables des institutions, c'est tout cela parfois qui permet même à certaines personnes, comme l'a cité le cas d'un journaliste, ou à des policiers, à d'autres personnes, de s'en prendre aux défenseurs des droits humains. Donc on fait passer une mauvaise perception dans la société du travail des défenseurs des droits humains, qui est pourtant là pour travailler pour toutes les personnes dont les droits ont été violés. Le défenseur des droits humains est là. Qui travaille indistinctement pour tous ceux dont les droits ont été violés, les libertés fondamentales foulées aux pieds. Donc il faut un effort qui doit être fourni à ce niveau, au niveau de nos gouvernements.
Voilà.
Par rapport à notre, par rapport à Moïse de Guinée-La
pour terminer par là, oui.
Je dirais que nous, on n'a pas, besoin qu'on puisse affecter des policiers à notre sécurisation. Je crois que le plus important, ce que j'ai dit à Moïse, c'est que vous avez vous-même soulevé des cas de solidaire chez Bella qui a été tué à l'inspection générale de la police, donc il a été tué. La police, au sommet, a été impliquée dans l'assassinat de Florider sur le Bajir et le Bazana Kidadi. Et nous ne pensons pas qu'en affectant des policiers à la protection des défenseurs des droits humains, que ce qui pourrait nous sécuriser. Dès lors, il n'y a pas de changement de perception du travail des défenseurs des droits humains.
Voilà.
À ce niveau-là. Si vous permettez, par rapport à ce qu'il a posé une question sur le procès, où en est-on par rapport au procès à l'assassinat de Florider? Le procès, jusqu'aujourd'hui, cela fait l'objet de toutes nos revendications pendant les deux jours qu'on a commémoré la lampe de l'assassinat de Floribert. Le procès, l'action à l'appel, jusqu'aujourd'hui, est gelé à la haute cour militaire. et nous dénonçons en fait cet assujettissement de la justice à l'exécutif, parce que nous sommes convaincus que ce sont des raisons manifestement politiques qui font que l'action en appel à la haute cour militaire puisse être gelée jusqu'aujourd'hui. C'est là que nous en appelons à nos autorités de laisser la justice libre pour qu'on puisse rendre justice à Floribert, Soubeyate, Fidel, Bazana et Dadi. Et nous dénonçons cela et nous espérons que d'ici là nous serons fixés tant au début des audiences à la haute cour militaire.
Merci beaucoup, Rostin Manketa. Je rappelle à vos auditeurs que vous êtes le directeur exécutif adjoint de l'ONG La Voix des Sans Voix pour les Droits de l'Homme. Merci de toutes ces précisions dans cette émission consacrée au mécanisme pour la protection effective des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons Trudon qui nous appelle de Kananga, qui est défenseur des droits de l'homme, Nelson Etamasisi. Nous allons vous donner la parole, monsieur, pour que vous puissiez intervenir. Mais vous avez aussi besoin de témoigner, de nous écrire. Faites-le sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Votre commentaire sera exploité dans cette émission.
Chaque jour, la fréquence de la TNU le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, visez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Et nous avons ce message de Saloumou Ababé Le Cédar qui nous a écrit des baraka au sud Kivu qui dit ceci: pour protéger les défenseurs des droits de l'homme en RDC, je pense que notre gouvernement doit respecter la loi, combattre l'impunité et assurer correctement la sécurité des citoyens et agir sans complaisance face aux anti-valeurs. Trudon, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour,
vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Vous avez écouté les uns et les autres, monsieur Rostin Manketa de la VSV. Vous avez aussi écouté les amis comme Moïse de Guémena, Élie de Kisangani, Maître Henri ici à Kinshasa. Vous êtes à Kananga. Qu'est-ce qui peut être fait au-delà de tout ce qu'ils ont dit pour assurer une protection effective des défenseurs des droits de l'homme?
Merci beaucoup, M. Journaliste, d'avoir bien voulu associer ma personne à cette émission. Avant de répondre à votre question, j'aimerais vivement saluer ici le fait que vous ayez ainsi cette émission à l'heure du jour, c'est tout au moins un partenariat qui a toujours convenu entre la presse et les militants des droits de l'homme. J'ai tout suivi, mais j'aimerais également appeler aux éléments qui ont été évoqués à l'émission par Rostam, on connaît le salut en passant. Il y a un certain nombre de questions dans le chef de pouvoir public. J'aimerais justement ajouter ce qu'il a dit, le fait que le ministère de la Justice et des Droits Humains a dû parrainer l'ouverture d'un numéro vert au niveau du RENADOC, le Réseau National des Jeunes des Droits de l'Homme. Mm-hmm. Ce numéro a pu aider pas mal de personnes qui s'étaient senties lésées et il a eu à combattre également l'impunité. Mais au nombre des défis, je m'inscris totalement à ce que Rostin a évoqué. Il a parlé du fait qu'il y a le blocage au niveau du Parlement, mais à côté de cela, il y a eu le fait que le ministre a dû, le ministre de la Justice des droits humains, du moment passé, a dû prendre un certain nombre d'arrêtés, mais à ce titre, il y a par exemple, alors pourtant, les mesures d'application de l'entité de liaison qui ne fonctionnent pas dans les provinces, parce que les pays prévoyaient plutôt que c'était les gouverneurs de province qui en assuraient la présidence. Mais les provinces font face à certaines réalités, c'est ici par exemple, lorsque le gouverneur de province, le président de la ville de liaison, ils sont plus préoccupés par la surveillance politique au point que la question des droits de l'homme est plutôt inscrite non pas dans leur agenda. Mais au nombre de défis, il y a également d'ajouter le fait que, à ce jour, il prévaut des faits graves, des jugés, qui continuent d'habiter les animateurs de nos institutions politiques. Rostin a évoqué tout à l'heure, par exemple, parce que, ici, dans notre pays, on nous accuse d'être la caisse des résonances de je ne sais quoi. Nous sommes des petits citoyens à la solde des pouvoirs des législatifs, des cantons. Mais, un auditeur a évoqué le fait que, nous, les Français de la Longue, nous avons toujours été des partenaires. Nous sommes des partenaires, et qu'il va falloir que deux parties de ce préjugé-là, c'est quelque chose que le partenariat entre nous et entre le droit public qui fonctionnait. Et d'ailleurs, à ce jour, pour le compte, par exemple, de la réforme du secteur de sécurité, on crie dans nos défenseurs de droits de l'homme qui restent à côté des militaires, à côté des fidèles de PMC, pour pouvoir évoquer un certain nombre de violations et ensemble nous trouvons des solutions appropriées. Mais j'aimerais également noter le fait que, même quand j'ai dit un PMC tout à l'heure, Elle voudrait vivement faire revenir notre pays à une époque dictatoriale. Nous n'avons pas besoin d'être anachroniques. Si dans notre pays nous avons laissé les grandes options pour que notre pays s'inscrive au rang des républiques démocratiques, on ne peut pas, on peut très mal comprendre que quelqu'un dise qu'il va falloir que l'on réhabilite la peine de mort. Non, la RDC a ratifié pas mal d'instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme et nous devons nous y conformer. Et quand elle veut par exemple le fait que les droits de l'homme encourageraient l'impunité, j'aimerais également rappeler à Maître Henriette que les défenseurs des droits de l'homme ont toujours été les alliés de ceux qui l'ont pris le pouvoir. Ceux qui continuent de nous traiter de caisse de résonance, le jour où un ancien ministre n'a plus le pouvoir et qu'il est arrêté dans des conditions infrahumaines, dès lors qu'il est caché quelque part et que même son avocat ne s'est pas parvenu à lui, c'est toujours nous qui savons lever le ton pour dire tel ou caché quelque part, il va falloir que ce soit retenu dans des conditions humaines. Donc nous sommes la voix de ceux qui n'ont pas de voix et selon la personne ne sera de le retenir. Au point que la défense des droits de l'homme, elle progresse à tous les gars pour les conditions humaines. C'est-à-dire nous défendrons les généraux, nous défendrons les enseignants, nous défendrons ceux qui ont le pouvoir, tout comme nous défendrons également les enseignants. Et même les ayants dans leur charge dans les villages, donc les droits de l'homme, c'est une question d'ordre universel, ils sont individuels. Et que là, nous continuons de le jouer en doute de protéger dans le continuer à rester.
Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les antennes. Peut-être vous pouvez placer un mot, Tridon, pour terminer votre propos. C'est bon, juste un mot pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de personnes sur notre standard qui voudraient donner le point de vue.
Il va falloir réaliser la peine de mort. Mais nous le disons, en réalisant la peine de mort, on tue le criminel, mais on ne tue pas le criminel. Et l'assassinat, en fait, si on tue quelqu'un, c'est toujours des conditions de violation de l'homme. Et nous ne pouvons pas accepter,
voilà. Merci.
Au nom de la signature, de la ratification que nous avons apportée à tous les instruments juridiques internationaux, nous ne pouvons pas jamais accepter cela.
Merci beaucoup, Tridon. Vous êtes à Kananga. Je vais insister sur, il y a beaucoup de défis à relever à ce problème, d'abord des préjugés au niveau de responsables politiques, du travail de défenseurs des droits de l'homme. Il faudrait beaucoup plus de sensibilisation, de changement de comportement, d'attitude, de changement de mentalité pour qu'il y ait ce partenariat entre le pouvoir public et les défenseurs des droits de l'homme. Merci beaucoup. De ce point de vue, de Kananga, où les auditeurs nous suivent sur, je crois bien, 93 FM. Nous avons Nelson qui est à Massif, si c'est dans le Nord qui vous. Bonjour Nelson.
Oui, bonjour, c'est Nelson Baïmi à Massif.
On vous écoute Nelson.
Oui, j'aimerais savoir s'il y a des limites en fait de la défense des droits humains. Car depuis que ces institutions existent, et ici, elle ne parle que des droits humains pour les violations, les violences sexuelles et des pertes de vie humaine. Alors qu'il y a plusieurs formes de violences qui doivent se défendre. Supposons par exemple, pour une petite manifestation des étudiants, la police qui fait intervenir et ici, le téléphone des étudiants, même le patrimoine de l'institution. Donc c'est une violation des droits humains. L'État congolais, il fait travailler, l'État, un parent de 6 enfants, tout un mois pour lui faire à la fin du mois 30 000 francs. Ça aussi, c'est une violation. On doit interpeller aussi l'État congolais.
Voilà, merci Nelson. Oui, Nelson, vous voulez savoir s'il y a des limites en ce qui concerne la défense des droits de l'homme. Vous avez donné des exemples, la police qui disperse les manifestations des étudiants et va même jusqu'à à commettre les raquettes pour prendre le téléphone et les billets pour les biens d'une institution. Nous allons poser la question à un autre intervenant qui est sur les antennes, c'est Robert Irunga, qui est le coordinateur de l'ONG Ami de Nelson Mandela. Il est ici à Kinshasa. Robert Irunga, bonjour. Nous vous avez suivi cette question que je m'avais d'ailleurs vous poser directement. Il y a un autre ami des Massis qui se demande s'il y a des limites en ce qui concerne la défense des droits de l'homme. Cela veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels les défenseurs doivent ne peuvent pas franchir dans l'exercice de leur travail avant de revenir bien sûr sur les efforts à faire pour les protéger. Qu'est-ce que vous dites d'abord par rapport à cette préoccupation de l'auditeur? On va revenir sur la question centrale de l'émission.
Ok. Merci, je voulais dire qu'il n'y a pas de limite complète parce que les droits de l'homme, c'est un tout. Et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a les 30 articles qui sont répartis en deux parties. Il y a les droits civils et politiques. C'est entre autres les droits, comme les droits de la cité, les droits de manifester effectivement, c'est un droit. Les droits à une arrestation, les droits à ne pas être arrêté arbitrairement, les droits à la vie, ainsi de suite. Il y a aussi la deuxième partie qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits à l'éducation, les droits au mariage et tant d'autres droits. Il n'y a pas de limite pour les droits de l'homme. Quand on viole les droits, quels qu'ils soient, dans les domaines économiques et dans les domaines politiques, je crois que ça doit être sanctionné de la même façon.
Et pour revenir maintenant à la question centrale, vous avez suivi, je crois bien, l'intervention de Roscoe Manqueta, qui donc est à Canada, et les autres auditeurs qui sont revenus sur les défis qu'il faut encore pour la protection, une protection vraiment effective, si on peut dire ainsi, des défenseurs des droits de l'homme. Mais au niveau des amis de Nelson Mandela, quels sont pour vous ces défis à ce moment pour assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme?
Ce sont les mêmes, je crois, que nous avons toujours déploré. D'abord, que nous, l'observation que nous pouvons faire, nous, les amis de Nelson Mandela, c'est d'abord le fait que nous avons constaté, depuis que nous sommes en train d'évoluer dans les domaines des droits de l'homme, c'est maintenant notre 20e année d'action sur le terrain, nous avons constaté avec les régimes actuels, il y a beaucoup d'autorités, enfin beaucoup de dirigeants qui ne connaissent même pas les droits de l'homme. Moi-même, j'ai fui arrêté une fois. Alors, une autorité, une très grande autorité, qui me demande, qui me reproche, moi, de dénoncer des situations de droits de l'homme sans d'abord passer par les ministres des droits humains, parce que nous, les défenseurs des droits de l'homme, nous n'avons pas le droit de dénoncer. Nous n'avons le droit qu'à observer les situations de droits de l'homme et aller les présenter aux ministres des droits humains. Et ça m'a étonné, un service de l'État, un service très important de l'État, et une autorité, un directeur, qui réfléchit de cette façon-là. Alors j'ai trouvé que c'est vraiment un grand défi. Il faut une formation aussi des droits de l'homme pour ce qui concerne les agents des services de l'ordre et de sécurité. Et vous le remarquerez même pour le dernier mail, si vous avez suivi, quand il y a une colonne qu'on arrête par-ci par-là, on stigmatise les défenseurs des droits de l'homme. On présente les défenseurs des droits de l'homme comme ce sont eux qui favorisent les communes dans notre pays. C'est quelque chose de très contraire au sens de la République. C'est une autorité. Nous avons suivi ça parmi les bourgmestres, que je peux citer les bourgmestres de Calam, que j'avais suivi une fois, lorsque les communes avaient amputé les bras d'un policier. Et ils passent comme ça, disant à la population que vous voyez comment est-ce qu'on a amputé les bras d'un policier. Et les Français ne sont pas les premiers à protéger les communes. Et nous avons suivi même les responsables des services de la police qui accusent les Français de l'homme, qui les présentent comme des gens qui favorisent les mal, qui encouragent les malfaiteurs. Alors ça, ce n'est même pas une réalité. Si on est devant ces autorités pareilles, premièrement, ça montre vraiment qu'ils ne connaissent pas les droits de l'homme. Deuxièmement, ils ont difficile à respecter les droits de ceux qui défendent les droits de l'homme. Mmh. Alors tous ceux qui défendent les droits de l'homme sont présentés comme des ennemis. C'est vraiment un défi. Et aussi, l'esprit critique, l'esprit négatif, c'est que parfois, vous avez suivi la réconciliation des presse organisée par le porte-parole du gouvernement. Ils stigmatisent tous les Français de droit de l'homme. Ils sont traités comme des ennemis de l'État, comme des ennemis des régimes, ou comme des personnes à la solde des Occidentaux, ou qui font les jets des partis politiques d'opposition. Alors, si les autorités que nous avons ont fait l'engagement, cela ne rassure pas que les Français de droit de l'homme seront protégés, malgré que j'ai suivi mon collègue Fortin. Mm-hmm. Il a bien dit qu'il faut un cadre, des cadres juridiques, notamment la loi sur la protection des Français des droits de l'homme. Mais cette loi peut exister, mais est-ce que ça sera appliqué? Alors, les droits de l'homme, si, pour que ça soit appliqué, ça doit être d'abord l'esprit, soit une politique de notre gouvernement. S'il n'y a pas de politique de notre gouvernement, c'est encore très difficile qui est français.
Pour que vous regardez en ligne Robert Ilunga, nous avons John qui est à Lubumbashi, Congo qui est à Mbujimayi. Au Cas oriental, ils ont ce message de France qui dit ceci: pour une protection efficace des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo, ils nous font tous, à tous les niveaux, militer pour un vrai état des droits, et ce ne soit pas une vaine parole, mais prouvé par des faits. Tant qu'il y aura des inégalités et multiples injustices sociales, telles que maintenant, tant qu'il y a, il y aura des justices à plusieurs vitesses, avec des logiques de deux poids, deux mesures, avec des castes, des influents intouchables au sein de la classe dirigeante, les défenseurs des droits de l'homme seront toujours exposés dans notre pays. Ils militent dans l'ensemble pour un état des droits, pour des égalités au niveau de traitement, pour l'égalité des citoyens devant les lois de la République. Malheureusement, leur combat est parfois perçu comme les crimes de lèse-majesté, car hein, ils se battent pour la reconnaissance des droits des plus faibles et des démunis. Ce sont des défis que la RDC doit surmonter. La balle est plus du côté de ceux qui torpillent intentionnellement les défenseurs des droits de l'homme et de ceux qui se laissent manipuler pour exécuter des ordres contraires à la dignité humaine et aux droits de l'homme. Roger Mukengere, qui est à Bukavu, il y a trois choses à mettre en pratique pour faire face à ces mots. Faire une justice droite et pour tous, rendre la tolérance zéro plus effective sur toute l'étendue de la RDC et enfin faire appel à la continence des acteurs politiques congolais. Israël Zinzoule, qui est à Boutembo, il faut que le gouvernement puisse établir un état des droits. Kabuyaya Fiston, qui est aussi à Boutembo, l'incompétence de plusieurs personnes est à la base de toute forme de marginalisation des défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, John Lubilanji, qui est à Lubumbashi. Il faudrait une justice pour tous, sans une classe des privilégiés et des intouchables. Il faudrait aussi que les dossiers en cours puissent être clos dans les délais raisonnables et que les vrais coupables soient sanctionnés. L'ensemble de tout cela va faire à ce que les défenseurs des droits de l'homme puissent être protégés. John, vous êtes en ligne de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok, je voulais revenir au premier invité par rapport à l'appel qu'ils ont fait à la haute cour militaire. En fait, je voulais savoir quand on va à l'appel, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec les verdicts qui étaient tombés. Bon, je voulais savoir, ils sont en train de viser qui? Ils veulent la tête de qui pour qu'ils aillent pour quelles raisons ils sont partis à l'appel? C'est ça, en fait, ma préoccupation.
Voilà, c'était la question adressée à Rostem Enqueta de la Voix de Sans-Voix qui n'est plus avec nous sur les antennes. Mais là, cette fois, nous avons Robert Ilunga, ami coordinateur de l'ONU Jamais de Nelson Mandela. Si peut-être qu'il a la réponse par rapport à cette question, il pourra vous la donner. Pourquoi les ONG vont en appel à la haute cour? Qu'est-ce qu'ils visent exactement? Si peut-être Robert Ilunga a les éléments de réponse, il pourra vous les donner. Congo, vous êtes en Mbujimayi au Kasaï Oriental. Bonjour.
Bonjour, c'est monsieur Congo Kababa de Mbujimayi.
Voilà, Congo Kababa, on vous écoute. Qu'est-ce qui doit être fait pour la protection des défenseurs des droits de l'homme?
Oui, d'ailleurs, moi je suis en train de regretter beaucoup parce que cette question-là ne pouvait pas se poser actuellement. Celle de savoir que faire pour protéger les défenseurs des droits congolais. C'est comme si on n'avait pas un État. Hein? Parce que les missions traditionnelles de l'État, c'est de protéger la population, en particulier les cas qui est présent, les défenseurs des droits humains. Alors, dès lors que l'État essaie d'ignorer ses missions traditionnelles, c'est-à-dire que cet État n'existe pas. Donc, à mon niveau, moi, je trouve que l'État doit considérer les défenseurs des droits de l'homme comme des partenaires qui vont critiquer ses actions, parce qu'on assiste à des traitements inhumains, dégradants, une humiliation, l'impunité totale qui se dégage dans notre pays. Alors ces gens-là, ils doivent critiquer pour que l'État change. Alors si l'État les considère comme des ennemis, ce n'est pas bien. Alors il faut qu'ils les considèrent comme des partenaires pour que l'action gouvernementale soit favorable à la population. Et deuxièmement, l'État doit mettre fin à la théorie des prisonniers d'opinion. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il s'est exprimé ou il a donné un point de vue sur tel sujet ou sur tel acte commis par un gouvernement, mais l'acte qui n'entre pas dans le cadre de l'intérêt général de la population. Hein? Donc, si l'État veut vraiment exister et avoir son pas, il doit collaborer avec les défenseurs des droits de l'homme. La loi existe, qu'on l'applique. On ne peut pas créer une autre où la loi existe déjà. Donc, comme la loi est là, on l'applique. C'est ça mon point de vue. Merci.
Merci, Congo Kababa. Vous êtes en Mbujimayi et vous pensez qu'il revient, hein, c'est parmi les missions traditionnelles de l'État, la protection des citoyens. Il ne faudrait pas vraiment un débat pour une protection spéciale pour les défenseurs des droits de l'homme. Là, il doit y avoir un problème. Vous pensez que l'État doit considérer que les défenseurs des droits de l'homme, ce sont des partenaires qui doivent l'aider, les critiquer, lui permettre d'améliorer Et pour vous, il faudrait aussi qu'on mette fin à cette conception, à cette idée des prisonniers d'opinion. Merci, Congo. Vous êtes en Bujimaï, au Kasaï oriental. Nous avons aussi le message de Noé Migo qui dit ceci. Premièrement, il faut que la justice soit juste. Deuxièmement, le gouvernement doit appliquer la tolérance zéro annoncée par le président de la République. Après l'enquête, que la justice soit faite pour tous ceux-là qui violent les droits des défenseurs des droits de l'homme. Abel Lifaeli dit ceci, le pays a d'énormes défis à relever en matière sécuritaire. Pour les cas échéants, il faut plus éduquer nos militaires et policiers dans ce sens. Mais puisque ce ne sont pas eux les commanditaires, souvent les ordres viennent d'en haut, les acteurs politiques. Nos acteurs politiques doivent savoir que sans ces gens, nous ne serons pas un pays crédible aux yeux de la communauté internationale, aux yeux du monde. La liberté doit leur être garantie. Il ne suffit pas seulement de penser aux défenseurs des droits de l'homme, mais plutôt à tous les Congolais ainsi que les étrangers qui vivent en RDC. Et c'est là, sans distinction, aucune Blaise est en Mungwalu, en province orientale. Bonjour Blaise.
Oui, allô, bonjour.
On vous écoute, Blaise. Nous tendons vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous proposez pour la défense, la protection des défenseurs des droits de l'homme?
Vraiment, je suis à Mungwalu. J'ai la vie positive pour que le gouvernement congolais puisse vraiment protéger les défenseurs des droits de l'homme. Parce que ici, sur place à Mungwalu, vraiment, les droits humains ne sont pas respectés. Il y a vraiment la façon dont on est en train d'arrêter les gens ici, même à cas de crédit. Mais si quelqu'un a peut-être des mésententes avec son frère à cause du crédit, peut-être il va bouche, soit il a un habit, mais il va aller se plaindre au niveau de la police. Et si la police descendait pour venir arrêter ce monsieur-là, et tu vas croire que non, c'est peut-être ce monsieur a tué quelqu'un, sauf comment. On est en train de prendre ce monsieur, vraiment, on ne respecte pas les droits humains. Alors, comme notre avocat Ariane avait dit, sinon peut-être à partir de ces défenses que les gens soient en train de commettre encore des impunités. Mais ici, à l'intérieur du pays, ce n'est pas ça. Donc il y a de ces gens-là qui sont en train d'être arrêtés. Ils ne savent même pas comment on peut respecter les droits humains. Même dans un petit problème comme ça, mais il est mal traité à cause de l'ignorance. Alors là, la cité aussi, il n'y a pas aussi assez de défenseurs des droits de l'homme. Donc, nous demandons à ce qu'on puisse se former pour les défenseurs des droits humains et puis que le gouvernement puisse protéger ces gens-là.
Merci.
Et encore la protection de la population.
Merci Blaise. Nous allons écouter Simon qui est à Matadiani. Une minute, Simon, parce qu'on tend vers la fin de l'émission. Votre point de vue. Bonjour, Simon.
Oui, bonjour. En fait, le problème, c'est un équivoque. Est-ce que les organisations de défense des droits humains ou des droits de l'homme n'ont pour mission que de dénoncer ou alors ils ont encore d'autres prérogatives où elles pouvaient aller un peu loin. Parce que lorsque c'est entre les individus, ça fait marcher. Mais lorsque le pouvoir, non pas seulement un RDC, c'est presque un affaire de ces organisations qui trouvent. Parce que lorsque c'est le pouvoir en place qui fauche et s'entête et qui persiste dans la violation des droits humains. Qu'est-ce que ces organisations pouvaient faire au-delà? Est-ce seulement la dénonciation ou comment? Parce que c'est l'impression que nous semblons avoir. Vous vous rappelez, nos frères de sourds ont été privés de SMS, même nous-mêmes, pendant les périodes de camp, après les élections. Rien n'est fait et ces gens sont restés comme ça, l'air. Beaucoup de choses, ils ont, leur ont été ratées à cause de ça. On laisse, je vous dis dans l'enseignement par exemple, les vieillards de plus de 60 ans de service, un monsieur qui a 67 ans de service, fatigué, tout ça, on utilise le temps de repos, on l'exploite par le gouvernement congolais, rien n'est fait. Tout s'arrête au niveau des dénonciations et le gouvernement ne s'y attelle pas.
Voilà, merci.
Qu'est-ce qu'on pouvait faire à ce moment?
Ok, merci. On va poser la question à Robert Yinunga. Je vais prendre la parole tout de suite pour conclure cette émission consacrée, bien sûr, à la protection des défenseurs des droits de l'homme. C'est vrai que les auditeurs ont abordé les questions qui sont des considérations générales par rapport aux défenseurs des droits de l'homme.
Parole aux auditeurs.
Nous avons un dernier auditeur, je crois bien, c'est Michel. Vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Michel, vous êtes en ligne, bonjour.
Bon, moi,
Moi, je voudrais intervenir pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Moi, je demanderais seulement aux défenseurs des droits de l'homme, tout d'abord, de s'organiser eux-mêmes, d'être en synergie. De manière que quand on attaque un défenseur des droits de l'homme, c'est tous les organisations des droits de l'homme qui doivent défendre le défenseur qui a été attaqué. De deux, quand par exemple il porte plainte à la justice pour défendre ses défenseurs des droits de l'homme et que ça n'aboutit pas, en tout cas il faut que puisse également contacter les organisations internationales des droits de l'homme
voilà.
pour
rendre justice Michel.
À tous ces défenseurs-là qui ont leurs droits.
Merci, merci beaucoup Michel. On va donner la parole à Robert Ilunga pour la conclusion. Plusieurs questions lui ont été adressées. John de Lumbashi qui voulait savoir pourquoi les défenseurs des droits de l'homme font appel à la haute cour. Il y a aussi cette question de notre ami de Matabi. Il voulait savoir, mais bon, au-delà des dénonciations, c'est qu'ils doivent encore faire c'est quoi. Et Robert Ilunga, cela vous permet de ramasser cette préoccupation des auditeurs et conclure cette émission sur ce qui doit être fait pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Tout en n'est pas, bien sûr, il y a une question qu'on ne doit pas oublier, c'est la question des formation et de sensibilisation auprès des autorités, des acteurs politiques hein, sur les préjugés qu'ils ont sur le défenseur des droits de l'homme.
Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que j'ai suivi mon frère de Lumbashi. Il a posé bien la question pourquoi est-ce qu'il y a une que je t'appelle. De manière ordinaire, on n'est pas content d'un verdict prononcé par la justice. Et on peut toujours être juste après, c'est vraiment une procédure qui est normale à tout individu. Et nous, les Français de l'homme, par rapport au procès sur le FGBA, nous avons suivi, d'abord de manière sur la forme, nous avons vu que la justice est allée un peu de manière professionnelle, bon, c'est que nous avons vu, mais sur les plans fonds, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup vraiment à dénoncer. Il y a beaucoup à dénoncer, nous avons vu que le numéro 1, le suspect numéro 1 qui a été attiré par la famille MCBA, qui prend les Américains Monde par exemple, il a été attiré à la justice, il devait être entendu. Il n'a pas été entendu comme un accusé, il a été entendu comme un témoin. D'abord, ça ne nous a pas plu. Il devait se défendre parce que lors de. Quand on suivait l'évolution des procès, nous avons vite compris que beaucoup d'autorités ont dénoncé les responsables numéro un de la police d'une façon ou d'une autre, mais la cour, qui semble être un peu, dont les juges étaient inférieurs par rapport au grade qu'a maintenant le général Djonombi, n'était pas en mesure de se sentir un peu diminué. Que nous avons pu constater. Alors, il fallait recourir à une cour qui peut juger facilement les suspects accusés, bien sûr, par la famille, même la famille de TBA. En plus de cela, notre frère a dit que c'est la pièce d'équipe qu'on est en train de chercher. On ne cherche pas toutes les personnes. Nous voulons bien que les criminels, ceux qui ont commis cet acte-là, qu'elles soient pas acceptées. Ceux qui ont commis cet acte-là, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils soient président de la République, qu'ils soient général, qu'ils soient lieutenant, qu'ils soient sanctionnés. Parce que nous, jusqu'à preuve du contraire, nous considérons comme les crimes causés, c'est un crime d'État, entre guillemets, parce que jusqu'à nous a pas encore, les choses ne sont pas encore
oubliées. Voilà. Oui, et pour répondre aux autres préoccupations d'auditeurs, parce que là, on n'a qu'une minute et 45 secondes pour terminer, M. Robert.
Oui. Pas de préoccupation, n'avons pas seulement les négociations. D'abord, je dis qu'il y a la promotion d'abord, et aussi, il y a la protection des droits de l'homme. Là, de manière générale. Une négociation, c'est vraiment une promotion des droits de l'homme. Et c'est que notre avis doit savoir que les gens des droits de l'homme, ce ne sont que des groupes de pression. Ils n'ont pas de mécanismes contraignants par rapport à ceux qui violent les droits de l'homme. Il y a la justice qui doit seconder les Français des droits de l'homme. Quand les Français des droits de l'homme dénoncent, et le procureur de la République, lui qui constate les infractions, il doit se saisir du dossier et il sanctionne les coupables. Mais on ne le fait pas chez nous. Tous ceux qui violent les droits des Français des droits de l'homme, tous ceux qui violent les droits de l'homme en général, ils sont un peu protégés. Mais non, à la police. À la police, il y a même des encouragements et les policiers qui pisaillent, ils volent parce que moi j'ai été des mêmes victimes d'un vol des policiers, devant même les conférences des policiers. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Alors, ce sont des choses pareilles qui sont arrivées. Et ces mêmes personnes, quand, par exemple, ils savent, ils voient les passer droit à l'homme, ils se font des ennemis, parce qu'ils ont des gens qui bloquent à exercer leur tâche de douane. Alors, nous disons que les dénonciations sont tellement importantes, nous, en tant que groupe de pression, c'est à la justice. Si vous voyez qu'il n'y a pas de sanctions, c'est ça, il faut condamner l'État. C'est la raison pour laquelle nous disons toujours qu'il n'y a pas une politique des droits de l'homme dans notre pays.
Voilà. Nous vous disons merci, Robert Ilunga, d'avoir accepté de commenter ces sujets avec les auditeurs autour des mécanismes à mettre en place pour la protection des défenseurs des droits de l'homme. Nous disons aussi merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, qui sont intervenus, ceux qui nous ont suivis avec beaucoup de patience dans leur maison. Nous avons Henri de Kisangani qui nous a suivis, qui nous a écrit d'ailleurs à la fin de l'émission pour dire qu'il faudrait une volonté politique de la part du pouvoir public pour assurer la protection des défenseurs des droits de l'homme. Vous avez été très nombreux à nous suivre à travers le monde. Nous vous disons tous merci.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Nous prenons rendez-vous demain mercredi avec Parole aux auditeurs à partir de 10h30 heure de Kinshasa. Nous allons parler du test national de fin d'études primaires. C'est la FEPA, que vous savez, ça se déroule dans 24 heures pour tous les élèves finalistes de l'école primaire. Et la question pour l'émission, comment se déroule le préparatif de ce test dans votre milieu? Le ministère de l'EPSP pourra vous donner des réponses et commenter avec vous le déroulement de ce test. Nous disons merci à Marie-Chantal Lumba, Titi Poutou, pour la réalisation de cette émission mise en onde par Paul Badianemon et Alain Goy à l'assistance technique. Je vous remercie, je vous dis au revoir. Et surtout, ne quittez pas parce que le programme continue sur Radio Capi. Au revoir.